Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais cela fait un an tout juste qu'a éclaté la guerre au Soudan, ce pays situé au nord de l'Afrique, menant à l'une des plus graves crises humanitaires au monde. Et alors que les yeux sont aussi rivés sur ce qu'il se passe en Ukraine, au Proche-Orient, à Gaza, ou encore en République démocratique du Congo, une conférence internationale humanitaire pour le Soudan a été organisée ce lundi à Paris. Mais alors que se passe-t-il et pourquoi la situation est aussi grave? C'est un sujet qu'on a déjà abordé ces derniers mois, mais un nouveau point nous paraît essentiel. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors, avant de revenir sur les conséquences pour la population et la situation urgente actuellement, ça me semble important de rappeler comment cette guerre a débuté. Il y a un an donc, le 15 avril 2023, un conflit a éclaté au Soudan entre deux camps. Il y a d'un côté l'armée fidèle au général Fatah al-Burhan, qui est au pouvoir depuis le coup d'état d'octobre 2021. Et il y a de l'autre côté, face donc à ce général Fatah al-Burhan, il y a les forces de soutien rapide. C'est en fait une milice menée par Mohamed Hamdan Daglo, dit Emeti. Bon, on en avait parlé à l'époque. Déjà, il faut comprendre que ces deux hommes, ils n'ont pas toujours été des rivaux. Ils ont même longtemps été des alliés. Ils avaient d'ailleurs mené ensemble donc ce coup d'état en octobre 2021 au Soudan, après une longue escalade de tensions entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire. Ce coup d'état, il avait finalement mené donc à la chute du premier ministre de l'époque, Abdallah Hamdok. Et suite à cela, c'est donc Abdel Fattah al-Burhan qui avait pris le pouvoir à la tête d'un gouvernement militaire, tandis que Mohamed Hamdan Daglo, qui est aujourd'hui donc à la tête des forces de soutien rapide, était devenu le numéro 2 du régime. Mais donc, il y a un an, des membres des forces du soutien rapide de Mohamed Hamdan Daglo ont attaqué Abdel Fattah al-Burhan dans l'objectif de prendre le pouvoir à leur tour. Depuis, c'est donc une guerre violente qui oppose les deux camps militaires pour prendre la tête du pays. Il s'agit d'une compétition pour le pouvoir et pour l'argent, selon le spécialiste du Soudan Marc Lavergne, qui a accordé un entretien au think tank l'IRIS. Et on peut noter que c'est pas seulement une histoire de deux camps militaires, c'est aussi de l'aide extérieure qui est apportée, qui leur permet de tenir sur la durée face à la violence des combats. On a d'abord l'armée du général Fatah al-Burhan, qui est par exemple soutenue par l'Égypte ou encore par la République islamique d'Iran, et qui utilise depuis des années la ville de Port-Soudan pour approvisionner en armes le Hamas à Gaza ou encore le Hezbollah au Liban. De leur côté, en face, on a donc les forces de soutien rapide de Emeti qui peuvent compter sur les Émirats Arabes Unis qui les approvisionnent via la Libye ou encore via le Tchad. Par ailleurs, plusieurs experts estiment aussi que les mercenaires russes de Wagner, qui sont présents au Soudan depuis 2015, pourrait aider ou avoir aidé cette milice en leur fournissant du matériel militaire. Et pour expliquer ce soutien, le spécialiste du Soudan, Marc Lavergne, interrogé par France 24, rappelle notamment que Emeti contrôle l'exploitation de l'or au Soudan, ce qui attise forcément des convoitises. Mais alors, près d'un an après le début de cette guerre, le bilan humain est absolument catastrophique. Déjà, d'après l'ONG Amnesty International, en un an, c'est plus de 14 700 personnes qui ont été tuées au Soudan lors d'attaques aveugles ou alors des attaques ayant délibérément ciblé des civils. Par ailleurs, il y a quelques mois, en octobre dernier, la BBC, donc le média britannique, avait obtenu des preuves de violences ethniques à l'ouest du Soudan. En analysant notamment des drones satellitaires, la BBC avait révélé qu'au moins 68 villages du Darfour, qui est une région située à l'ouest du Soudan, avaient été incendiés par des milices armées entre avril et octobre. De son côté, l'Organisation des Nations Unies avait affirmé en septembre qu'il y avait un risque croissant de génocide dans le pays, et ce alors que des tribus non arabes sont ciblées par des milices à dominance arabe, comme les forces de soutien rapide. Deuxième conséquence majeure de ce conflit, le pays subit une grave crise alimentaire qui se détériore rapidement. Selon Amnesty International, sur les 49 millions d'habitants au Soudan, c'est plus de 25 millions qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire, et parmi eux, c'est 2,9 millions d'enfants qui souffrent d'une malnutrition aiguë. Selon l'ONU, c'est près de 5 5 millions de personnes qui pourraient se trouver dans une insécurité alimentaire catastrophique dans quelques mois. Résultat, selon Cindy McCain, qui est la directrice exécutive du programme alimentaire mondial, la crise alimentaire au Soudan pourrait être, je cite, « la plus grande crise alimentaire jamais connue par l'humanité », selon elle. On le sait donc, dans des situations aussi tendues, l'enjeu c'est donc l'approvisionnement en aide humanitaire. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines dans ce format des Actus du jour, notamment concernant la situation à Gaza avec le risque de famine. Bien, le problème là aussi, c'est que les deux camps bloquent l'accès à l'assistance humanitaire, ce qui peut constituer un crime de guerre. Sachant qu'officiellement, l'aide humanitaire destinée aux habitants, elle serait bloquée pour tenter d'empêcher une livraison d'armes au camp adverse. Résultat donc, c'est près de 90% de la population qui n'a pas accès à ces aides humanitaires. Par ailleurs, en dehors de l'insécurité alimentaire, on peut parler de la destruction importante d'infrastructures, d'écoles, d'hôpitaux, de populations civiles, notamment des femmes et des enfants, victimes de violences sexuelles massives, alors que les enfants sont aussi recrutés pour prendre part au conflit. Ce lundi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a estimé que les attaques menées au Soudan, je cite, « pourraient constituer des crimes de guerre et contre l'humanité ». Par ailleurs, cette guerre, elle a aussi conduit au déplacement de plus de 8 millions de personnes depuis avril 2023. Alors, quelle est la réponse de la communauté internationale ? Jusqu'ici, elle est assez limitée. L'ONU avait estimé les besoins pour 2024 à environ 4 milliards de dollars, sauf que pour l'instant, c'était seulement 5%, donc environ 145 millions de dollars qui avaient été livrés. Alors cette semaine, la France, l'Allemagne et l'Union européenne ont organisé ce lundi à Paris une conférence internationale humanitaire pour donc évoquer la question du Soudan. Des représentants de près de 60 États était présent. L'objectif, selon Stéphane Séjourné, le ministre français des Affaires étrangères, c'était de briser le silence, je cite, et de mobiliser l'ensemble de la communauté internationale. Et finalement, à l'issue de cette conférence, c'est une promesse de plus de 2 milliards d'euros qui a été faite par la communauté internationale. C'est donc environ la moitié des 4 milliards nécessaires qui sont demandés par l'ONU. Et sur les 2 milliards, les pays membres de l'Union européenne vont participer à hauteur de 900 millions, dont 110 millions pour la France, tandis que les États-Unis s'engagent à donner 138 millions d'euros. Emmanuel Macron a estimé que ce soutien financier devrait permettre, je cite, de répondre aux besoins les plus urgents. Les pays réunis ont par ailleurs appelé à un cessez-le-feu au Soudan. On verra donc ce qu'il en est. En tout cas, ça me semblait important de faire un nouveau point sur la situation, alors qu'évidemment, on continue à suivre en parallèle, eh bien, évidemment, la situation en Ukraine, la situation aussi à Gaza au quotidien avec ce risque de famine, mais aussi évidemment la situation en République démocratique du Congo. On avait fait un nouveau point il y a quelques semaines. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actu. Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Herzi Halevi, a promis ce lundi une riposte à l'attaque sans précédent de l'Iran contre Israël lors d'une allocution devant des soldats. Cette déclaration fait suite à l'attaque de drones et de missiles iraniennes qui a eu lieu ce samedi en Israël. Une réponse directe à des bombardements attribués à l'armée israélienne sur le consulat d'Iran à Damas en Syrie, qui a fait 16 morts le 1er avril dernier, selon une ONG locale, l'OSDH, dont 7 militaires, membres des Gardiens de la Révolution, une organisation paramilitaire liée au chef d'État iranien. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères d'Israël a appelé ses homologues de 32 pays, dont la France, à prendre des sanctions contre l'Iran. Il demande notamment que le corps des Gardiens de la Révolution islamique soit inscrit sur la liste des organisations terroristes. À noter que les États-Unis l'ont fait en 2019. Alors Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, a expliqué dans un entretien au journal Le Monde que pour classer les gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes, il faut qu'une autorité judiciaire d'un État membre de l'UE considère qu'ils ont commis un acte terroriste, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent selon lui. De son côté, le président iranien Ebrahim Raisi a prévu que la moindre action d'Israël contre les intérêts de l'Iran provoquerait une réponse sévère de son pays. Deuxième actu, en France, Emmanuel Macron s'est rendu ce mardi à Vassieux-en-Vercors dans la Drôme pour présider une cérémonie d'hommage aux résistants et aux civils morts en 1944, il y a 80 ans donc, d'abord tués par la milice du régime de Vichy, puis massacrés en juillet lors d'une attaque des nazis. C'est assez majeur car c'est la première fois qu'un président vient rendre un tel hommage dans le cadre d'une visite officielle à Vassieux. Ce village fait pourtant partie des 5 seules communes considérées comme des compagnons de la libération car elles ont joué un rôle dans dans la résistance. Les quatre autres sont Paris, Grenoble, Nantes et l'Île-de-Sein. Troisième actu, toujours en France, des pizzas vendues par Auchan Availlon dans l'Yonne, puis commercialisées dans toute la France entre le 8 et le 12 avril, sont rappelées pour une présence possible de débris de verre. Ces débris se trouveraient plus précisément dans les feuilles d'origan. Alors si vous avez une de ces pizzas chez vous, Rappel Conso conseille de rapporter le produit au point de vente ou de le détruire. Ce rappel est valable jusqu'au 15 mai et si vous êtes concerné, vous pouvez demander un remboursement. Quatrième actu rapidement, c'est officiel, l'ADN de l'homme aperçu dans un couvent dans le Doubs ne correspond pas à celui de Xavier Dupont de Ligonnès. On en a parlé dans ce format le 12 mars dernier, une femme avait signalé à la gendarmerie avoir vu un homme ressemblant à Xavier Dupont de Ligonnès, suspecté d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants en avril 2011 à Nantes. Le mystère autour de Xavier Dupont de Ligonnès reste donc entier puisque l'enquête n'a pas déterminé s'il était mort ou en fuite. Cinquième actu, le monde subit un nouvel épisode massif de blanchissement des coraux selon l'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique. Il s'agit du quatrième enregistré par l'agence depuis 1985 et la grande barrière de corail située au large de l'Australie est concernée. Le blanchissement des coraux, c'est un phénomène où les coraux perdent leur couleur naturelle et deviennent blancs en raison du stress environnemental souvent causé par les températures de l'eau élevées. Ça affaiblit les coraux et menace la santé des écosystèmes, en particulier en raison du réchauffement climatique. L'agence estime que la planète a déjà perdu 30 à 50% de ses récifs coralliens et qu'ils pourraient complètement disparaître d'ici la fin du siècle s'il n'y a pas de changement notable. Sauf qu'une telle disparition pourrait avoir des conséquences désastreuses. De nombreuses communautés côtières dépendent des récifs coralliens pour leur subsistance, notamment pour la pêche, le tourisme et la protection côtière, ce qui pourrait donc avoir des conséquences économiques et sociales très importantes. À noter tout de même que ce phénomène peut être réversible, par exemple si les températures baissent ou si la surpêche et la pollution diminuent. Sixième actu assez insolite, vous allez voir, ça se passe à New York, aux États-Unis. En fait, pour se débarrasser des rats qui envahissent la ville, la mairie propose de leur donner la pilule contraceptive. Non, c'est pas une blague, c'est une mesure qui a été proposée par un membre du conseil municipal de New York. En fait, il y a quelque temps, un hibou s'est échappé du zoo de Central Park et il est vraisemblablement mort à cause d'un poison anti-rat qu'il aurait ingéré. L'idée de cet élu est donc de limiter la reproduction des rats en disséminant des granulés qui touchent le fonctionnement des ovaires des femelles et qui empêchent la production de sperme des mâles. À noter que la solution fait tout de même beaucoup parler, surtout quand on sait que 19 millions de femmes aux États-Unis vivent dans des déserts médicaux et ne peuvent pas avoir accès à la contraception, selon la fondation Kaiser Family. Septième actu, l'attaque au couteau qui a eu lieu dans une église assyrienne à Sydney, en Australie, ce lundi, est un acte terroriste, selon la police. Dans une vidéo du service religieux retransmise en direct, on voit un homme habillé de noir s'approcher de l'autel, lever le bras droit et attaquer l'évêque Marie-Emmanuelle avec un couteau. Alors cette attaque n'a pas fait de mort, mais quatre blessés, dont le pronostic vital n'est pas engagé. Un ado de 16 ans soupçonné d'être l'auteur de l'attaque a été arrêté, et donc la commissaire de police de la Nouvelle-Galles du Sud considère que c'est un acte d'extrémisme religieux, a priori individuel. Et on termine avec cette bonne nouvelle, ça concerne toujours l'Australie. Damien Guéraud, un Français de 31 ans, a obtenu la citoyenneté australienne après son acte héroïque lors d'une autre attaque au couteau, cette fois-ci dans un centre commercial à Sydney ce samedi 13 avril, qui a fait 6 morts et 12 blessés. Cette attaque, au passage, n'est pas considérée comme terroriste. En fait, il a tenté de bloquer le passage de l'assaillant avec un poteau dans un escalator. Il était accompagné d'un autre Français, son ami et collègue Silas Despros, qui a lui aussi essayé de s'interposer. Dimanche soir, une pétition avait même été lancée pour demander que Damien obtienne la citoyenneté australienne. Sur X, Emmanuel Macron a présenté ses condoléances aux Australiens ce mardi et a félicité les deux Français, je cite, qui se sont comportés en véritables héros, et il a fait part de sa grande fierté et reconnaissance.
Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous.